RCF.
Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. Pour vous accompagner ce vendredi soir, on prend le soleil tous ensemble, on prend l'apéritif, pourquoi pas. Et peut-être que même que vous êtes en terrasse, que vous avez branché l'application et que vous écoutez votre magazine préféré où l'on va faire des balades dans le territoire. On partira d'ailleurs à la découverte d'une belle exposition ce soir. Alfred Boucher de l'Atelier au Musée, c'est un rendez-vous que l'on vous donne au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine dans l'Aube avec Pauline Fleury qui est la commissaire de l'exposition. On parlera également automobile comme on vous l'a promis hier, notamment le point sur la voiture thermique mais aussi le point sur la voiture électrique, ses aspects positif, mais aussi les aspects négatifs avec Laurent Petit, qui est chef du département marketing chez le loueur Alphabet. Au programme, les fidèles du vendredi, Jacques Cohen, qui sera avec nous dans quelques instants pour sa chronique d'actualité. Il nous parlera de ISK, une marque terroriste islamique mondiale par un réseau de franchises. Nous serons également avec l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Étienne Veteux, qui posera son regard sur l'actualité de l'Église en France et dans le monde. Et puis un maire qui nous parle, juste avant le journal régional de 18h30, Patrice Mouzel, maire de Varmerieville, sera en ligne avec nous ce vendredi. Voilà pour le sommaire de cette émission. On va saluer nous Marion, notre stagiaire à la rédaction. Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Pour la Terre d'EDR ce soir, on vous retrouvera pour la page météo tout à l'heure. On commence par la chronique d'actualité du vendredi avec le professeur Jacques Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui de l'État islamique au Khorasan, ce qui est en quelque sorte la version afghane de Daesh. Évidemment, professeur, vous allez expliquer les choses bien mieux que moi. Le titre de votre chronique, ISK, une marque terroriste islamique mondiale par un réseau de franchisés. Tout un programme, Jacques Cohen.
Tout un mode opératoire. Finalement, il y a des petits magasins à tel ou tel endroit, il y a des grandes chaînes implantées partout, et puis s'est imposé dans d'autres secteurs le système de la franchise, où on a une marque, parfois une centrale d'achat, mais ce n'est pas obligatoire, et des boutiques qui, en fait, sont animées par les locaux, qui respectent plus ou moins bien la charte éthique et la charte graphique et de comportement de la marque centrale. Donc, pour la marque centrale, elle a un réseau mondial pas très cher, et pour les franchisés, ils bénéficient de cette marque dans leur action locale, avec quelquefois quelques facilités matérielles, mais pas obligatoirement.
C'est pour une présentation, j'allais dire, générale de ce contexte, professeur Jacques Cohen. Mais concernant l'État islamique au Khorasan plus particulièrement, qu'est-ce qui fait leur marque de fabrique, si j'ose dire?
Alors déjà, c'est pas seulement Khorasan. Parce que Khorasan, on peut dire à la limite que c'est un vieux nom pour quelque chose qui recouvrait à peu près l'Afghanistan et un petit peu au nord, un petit peu à l'ouest. Mais au 8e siècle, il y a longtemps. Et en tout cas, bien après qu'Alexandre soit venu se promener par là. Non, ce n'est pas le fait qu'on ait un État islamique au Khorasan qu'on pourra en avoir un à Bécon-les-Bruyères. C'est que cette fois-ci, cet État basé en fait sur une idée mythique, parce qu'il y a un hadith du Coran qui dit que la bannière noire pour la lutte finale se lèvera à l'est, là où le soleil se lève, le Khorasan c'est ça. Donc ça veut dire qu'on est à l'ouest, on doit être en Perse, c'est-à-dire actuellement en Iran, pour trouver que ce soleil se lève là-bas. Donc en gros, à partir de cette vue un peu mythique et messianique, j'allais dire, eh bien, si le soleil du djihad se lève à l'est, comme celui de la révolution mondiale, etc., eh bien, ce pays en devient, en quelque sorte, dépositaire. Et c'est là l'astuce des terroristes islamistes afghans, c'est d'avoir fait arriver, d'avoir conçu que leur marque puisse servir partout, et pas seulement en Afghanistan. En plus, en Afghanistan, ils n'y sont même plus, ou très peu comme guérilla, puisque les talibans les ont chassés, et qu'ils sont réfugiés dans les zones dites tribales du Pakistan, d'où ils mènent quelques actions en Afghanistan, mais aussi un peu ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas les Afghans qui y vont. Ils délèguent leur marque comme franchisés. Alors, il y a eu un attentat en Iran, qui est d'ailleurs en quelque sorte un record, parce qu'il y a beaucoup plus de morts que de blessés. Ça a vraiment tué tout le monde sur place. Ce qui est déjà un peu insolite, on aurait pu croire, de vue de loin, que les différents courants islamiques à vocation mondiale se feraient une certaine concurrence, mais dans les règles, si l'on peut dire, commerciales. Eh bien, pas du tout. Là, c'est une lutte féroce entre sunnites et chiites, et l'État islamique, ISK, au Khorasan, ISK, est sunnite. le plus spectaculaire et le plus connu maintenant, c'est leur revendication de l'attentat de Moscou dans la salle de spectacle. Alors, manifestement, ceux qui ont fait ça ont pris quelques libertés, j'allais dire, avec la charte éthique, graphique et de communication de la maison mère, puisque là, on est quasiment dans l'inverse d'un sans-faute, dans toutes les fautes commises. Ils sont arrivés sur place en ayant oublié de faire une vidéo de revendication, ce qui fait que ISK ne disposait que de quelques images, probablement d'Instagram, où les têtes étaient floutées, ce qui pour revendiquer est quand même pas terrible. Donc pas de vidéo préalable, pas d'engagement d'allégeance. Des amateurs totaux qui arrivent avec une bagnole qu'ils ont louée sans grande précaution, ce qui fait que le FSB met la main sur leur réseau de soutien en moins de 24 heures. Eux-mêmes repartent dans la bagnole dans laquelle ils sont arrivés, gardent les mêmes vêtements. Et quand ils se font piquer, ils n'ont pas une appétence particulière pour le martyr, ils ne vont pas tirer la moindre balle, ils vont être pris vivants et ils confessent sans trop de difficultés qu'ils ont fait ça pour avoir de la thune. Tout ça, du point de vue d'ISK, de véritables djihadistes, c'est un truc à donner le haut le cœur, aussi bien sur les motivations que sur le mode opératoire. Mais finalement, comme ils ont tué pas mal de monde et que ça a de l'impact, eh bien ISK, j'ai dit, finalement, ça contribue à l'image. Ils sont peut-être pas blanc-bleu, mais on couvre. Et ils ont revendiqué. C'est d'ailleurs parce que c'était très bizarre comme aspect que les Russes ont mis 2 jours à décider que c'était bien des djihadistes et que c'était pas quelque chose de, qui était habillé aux djihadistes. Et ce genre de raisonnement, ce fonctionnement de franchisé, finalement, c'est probablement une solution qui, comme en matière de lunettes ou de vêtements, peut avoir un succès mondial. Il suffit qu'il y ait quelques excités plus ou moins paumés quelque part, qui se réclament d'ISK pour que ISK leur donne un minimum d'aide maintenant qu'ils ont compris qu'il faut vraiment leur tenir la main, et puis qu'ils aient un écho à partir d'une revendication qu'ils seraient bien incapables de rédiger tout seuls. Alors le problème pour ce genre, j'allais dire, d'islamiste individualiste, c'est que ça peut aussi être très facilement manipulé. Et donc une franchise, elle peut être une franchise, par exemple, de quelques paumés chez nous, mais elle peut aussi être suscitée, comme probablement ce qui s'est passé en Russie, parce que ce n'est pas parce que les exécuteurs étaient tadjiks qu'il s'agit d'une cellule tadjik. Il semble, aux dernières nouvelles, que le réseau viendrait plutôt du Daghestan. Et puis, bien évidemment, les Russes ont accusé les Ukrainiens, lesquels ont dit que c'était une provocation des Russes, etc., etc. Parce que le gros avantage de cellules de Shore, franchisées, c'est que n'importe qui peut créer une franchise et l'habiller du logo de la maison mère. Ça ne demande pas des liens étroits et un investissement matériel considérable pour réaliser ça. Alors effectivement, nous sommes, puisque je sens venir votre question, et en France, eh bien on pourrait avoir la même chose. On a déjà eu tout un tas d'attentats plus ou moins individuels à coups de couteau, mais on pourrait avoir la fédération de 3 ou 4 paumés qui cette fois-ci se revendiquerait d'ISK et ISK leur donnerait un écho mondial en échange. Ce n'est pas du tout impossible. Alors qui pourrait s'amuser à monter une cellule comme ça chez nous, si ce n'est pas des paumés, j'allais dire autochtones et bien de chez nous? Et bien beaucoup de monde. Parce qu'une opération de franchisé, c'est parmi les opérations, j'allais dire, les plus faciles en ce qu'on appelle de nos jours en fausse bannière, c'est-à-dire en montage tortueux qui consiste à attribuer aux uns ce qu'on fait par ailleurs. Et donc des gens qui soient nos ennemis, ou même qui soient nos partenaires, je pense un petit peu à certains pays du Golfe, peuvent, si j'ose dire, créer des moyens de pression de cette façon-là qui pourraient nous ennuyer. Donc on a un paysage beaucoup plus flexible que ce qu'on a eu jusqu'à présent en matière d'organisation terroriste. Le dernier élément que je voulais traiter, c'est que c'est le succès de cette idée de Khorasan, parce que c'est un pays qui a tout au plus existé transitoirement comme un vague empire, de la même façon qu'Alexandre est passé par là assez peu de temps, mais qui peut représenter un concept messianique vendable que peuvent acheter sur toute la planète des islamistes qui pensent que, comme autrefois les révolutionnaires qui pensaient que le soleil, que la révolution se levait avec l'aube radieuse à l'est, et bien là maintenant, c'est le djihad qui peut parcourir la planète au fur et à mesure de sa rotation, en s'étant levé bien sûr, au Khorasan, état mythique, qui est un peu, de ce point de vue-là, l'inverse d'Atlantide. Ce n'est pas un état englouti, c'est un état qui surgit des flots, ou plutôt qui surgit de l'aube. Comme image de marque, en termes de commercial, c'est assez fort.
Eh bien, un grand merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et alors, généralement, vous dites à nos auditeurs, pour conclure, l'article arrivera dans quelques jours. Là, si on va sur votre blog, jhmcohen.com, dès maintenant, on a accès à toutes les informations.
Eh bien, cette fois-ci, L'article est en ligne avant sa parution à l'antenne. Je l'ai mis en ligne mercredi soir. Des fois que l'article soit périmé par un nouveau forfait de ces sinistres individus, parce que ce n'est pas parce que j'ai traité le sujet d'un air amusé qu'il faut oublier de conclure sur le fait que ce sont de tristes individus, des assassins épouvantables, et que donc ils sont à mettre hors d'état de nuire chaque fois qu'on en trouve. Et pour ce qui est de la bande-son, je pense que RCF Champagne-Ardenne, Reims, va donc m'envoyer cette bande-son, et je la rajouterai sur le site très rapidement.
On voit que vous êtes déjà passé au DAB+ avec RCF Champagne-Ardenne, professeur Jacques Cohen. On vous remercie, à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Un maire nous parle dans la suite de cette émission. Peut-être que vous allez reconnaître sa voix. Il était avec nous il y a quelques jours. Patrice Mouzel, maire de Varmerieville, est avec Jean-Pierre.
Patrice Mouzel, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de mieux connaître Varmerieville. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune ? Varmerieville, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors Varmerieville, c'est 2697 habitants exactement. On est un territoire de 2350 hectares. Et nous sommes jumelés avec une commune du nord de l'Italie qui s'appelle Arès.
C'est presque à 2700. 2700, c'est pas mal, c'est quand même une grosse commune. Hein. C'est plus de... Parce que nous recevons souvent, monsieur le maire, des communes de quelques dizaines d'habitants, 80 habitants, 100 habitants.
On est la dixième commune de la communauté urbaine du Grand Reims.
Vous êtes maire depuis plusieurs années peut-être, vous étiez avant adjoint.
J'ai été élu maire en 2001 et j'ai jamais été conseiller municipal avant, donc j'ai été élu conseiller et élu maire en 2001.
Vous avez été mis dans le grand bain tout de suite finalement.
Alors j'ai été mis dans le grand bain tout de suite effectivement. Oui. C'est mon quatrième mandat.
C'est votre quatrième mandat. Et monsieur le maire, bon, alors quelques petites questions. Une commune quand même qui a 2700 habitants, c'est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de maires disent qu'il y a beaucoup de paperasse. Dans une petite commune, ça va, mais là, vous avez quand même des personnes, un conseiller municipal pour vous aider, et puis une secrétaire de mairie, enfin quelque chose.
Alors, j'ai un directeur des services hein, en mairie.
Ah, tout à fait.
Oui. Donc, ils sont 5 administratifs hein, en mairie, et j'ai 7 personnes au service technique. Hein. C'est une commune qui demande du temps à être gérée. J'allais dire, il faut laisser de son temps, c'est-à-dire, bon, ouais, maintenant je suis retraité, donc j'ai un peu plus de temps. Mais auparavant, je me demandais comment je faisais pour avec mon travail et puis mon...
Parce qu'il vous arrive maintenant sans doute de pouvoir faire des réunions en journée, ce qui n'est guère possible pour quelqu'un qui a une activité professionnelle.
Je travaillais à la sécurité sociale, donc mon directeur me laissait du temps pour me consacrer à la mairie, donc j'avais pas de soucis particuliers. Mais en plus d'être maire de Varmerieville, je suis conseiller communautaire délégué pour le Grand Reims, pour le territoire de la vallée de la Suippe qui regroupe 7 communes. Donc je passe pas mal de temps pour...
Beaucoup de réunions, beaucoup de travail, bien sûr.
Beaucoup de travail, hein, c'est une cinquantaine d'heures par semaine. Hein, c'est une amplitude horaire, d'aller de 8h du matin à 8h du soir. Hein,
on peut résumer, monsieur le maire, que finalement, c'est un travail pour vous pratiquement à temps plein aujourd'hui, on peut le dire.
Non, mais c'est un travail à temps plein. Oui, mais effectivement.
Alors, une petite question. Quels sont les habitants de Varmerieville ? Il y en a peut-être qui sont là dans le village depuis longtemps, dans le bourg. Il y en a qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a des... Certains maires nous disent, avec le Covid, il y en a certains habitants qui veulent peut-être une maison, par exemple, avec un petit jardin. Ils ont pensé au Covid. C'est peut-être un tout petit peu moins cher.
Si vous voulez, quand je suis arrivé en 2001, on a révisé le plan local d'urbanisme et on a créé 5 lotissements. Donc ça fait pas mal de monde qui sont arrivés sur Varmerieville. Donc c'est vrai qu'ils ont tous construit, ils ont du terrain. J'allais dire à Varmerieville, il y a 85% des personnes qui sont propriétaires. Hein, voilà, donc et c'est un village où il fait bon vivre. Hein, on est labellisé Trois Fleurs. Les gens me disent, c'est marrant, ici, tout le monde se dit bonjour. Effectivement, quand on se croise dans la rue, tout le monde se dit bonjour. Même si on ne connaît pas la personne, on dit bonjour.
Ça, c'est bien. Ça, c'est une relation personnelle. Et combien de kilomètres de Reims, à peu près, maintenant, Varmerieville, pour donner une idée à nos auditeurs?
Reims, 16 kilomètres.
Donc, finalement, en 15-20 minutes, on arrive à Reims.
Voilà, vous sortez, vous prenez l'autoroute, enfin, la Nationale 51, mais qui est en deux voies, et vous êtes directement dans Reims. Hein.
Donc ouais. ça va vite, monsieur le maire. Oui, alors, est-ce que, vous aviez évoqué, parce que beaucoup de personnes y sont attachées, l'aménagement, les fleurs, le cadre de vie, etc. Oui. Mais est-ce que vous avez un ou deux projets en cours profilent?
Actuellement, nous construisons un gymnase de 1200 mètres carrés. Hein, pour les sportifs, un dojo pour le karatéka, parce qu'on a un club de karaté qui est le premier club de karaté de la Marne, avec 170 adhérents. Et nous allons aussi faire un club house pour nos boulistes, hein, qui sont une cinquantaine d'adhérents. Et nous allons refaire les deux terrains de football pour nos 360 licenciés du football club de la vallée de la Suippe. Voilà les principaux, j'allais dire...
Dossiers
en cours pour la mairie.
Mais monsieur le maire, c'est beaucoup de choses, ça. Vous êtes aidé aussi peut-être aussi par le Grand Reims pour les réalisations ou par d'autres collectivités locales.
Alors, on demande un fonds de concours pour une seule réalisation, mais sinon, on est surtout aidé par l'État, par la région, par le département, hein, bien entendu. Hein. Parce que c'est des sommes, pour le gymnase, ça dépasse le million d'euros, bien entendu, et pour le dojo, c'est plus de 500 000 euros, vous voyez.
Alors finalement, dans un bourg de 1700 habitants, vous connaissez pratiquement tout le monde, malgré tout.
J'allais dire, je connaissais avant, parce que je suis là depuis 68 ans, mais je connais les gens qui viennent aux manifestations, bien entendu, mais on peut pas connaître tout le monde. Hein, mais je vous dis, on a un bon relationnel avec la population, et ça se passe très bien.
Alors finalement, on pose souvent la question à tous les maires que nous avons en direct avec nous. Est-ce que vous êtes finalement un maire heureux? Parce que dans ce métier, dans cette mission de maire, il faut quand même être un passionné, il faut être passionné de ça, il faut aimer ça.
Alors, oui, il faut être passionné, donc il faut positiver si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'on rencontre, il y a toujours des insatisfaits, mais c'est un métier passionnant, c'est diversifié,
Et finalement, je vous interromps, monsieur le maire, mais finalement, le fait aussi d'être au Grand Reims et d'avoir des responsabilités, ça vous permet aussi de vous aider aussi dans la compréhension de la commune. Être au Grand Reims, c'est aussi savoir un peu comment ça fonctionne. Il faut mieux être vraiment bien impliqué dans les deux, comme ça vous avez des renseignements, une information.
Oui, non, mais c'est sûr, hein, le Grand Reims nous a apporté beaucoup de choses aux communes, et le fait de faire des réunions à la ville de Reims, d'être dans les 143 communes, c'est vrai, c'est très important, et ça nous a appris beaucoup de choses, oui, effectivement.
Mais écoutez, monsieur le maire, Varmerieville, on entend souvent parler, hein, quand on dit Varmerieville, ça fait partie des communes de la Marne et de notre région, que beaucoup de gens connaissent, où il fait bon vivre, où vraiment les gens sont heureux, ils se disent bonjour, vous l'avez dit, sans problème. Ça veut dire que on n'a pas tout dit aujourd'hui. Et faites-nous une promesse, d'ici quelques semaines, d'ici la fin de l'année scolaire, d'ici le mois de juin, peut-être aurons-nous l'occasion de refaire avec vous une émission pour prendre un dossier, pour prendre un sujet qu'on pourra davantage peut-être approfondir, si vous l'acceptez.
Ah ben bien entendu, aucun souci là-dessus, hein, non.
Eh bien rendez-vous est pris alors, monsieur le maire, on vous recontactera, on vous remercie d'avoir été avec nous, à très très bientôt sur RCF, au revoir.
18h30, l'heure du journal régional sur RCF en région. Les titres de ce vendredi 5 avril pour sa première édition en route libre. L'agence de développement touristique de la Marne recherche près de 250 bénévoles. Explication. Nouvelle hors saison musicale avec l'association Bougeons à Avançon ce week-end. Zoom sur cet événement.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
En fin de journal, Marion vous annoncera un temps estival pour ce week-end avec un mercure qui pourrait dépasser les 23 degrés localement. Mais attention, dans le même temps, un nuage de sable du Sahara arrivera ce week-end dans les Ardennes. Après avril 2018, mars 2022 et février 2023, le phénomène se répète. La concentration de poussière et la taille des particules peuvent affecter notre santé. Affections respiratoires type asthme ou pneumonie ou encore des irritations de la peau et des yeux, donc attention, prudence. L'agence de développement touristique de la Marne organise le dimanche 19 mai une grande boucle festive de 30 km dans les environs d'Épernay, intitulée « En route libre ». Pour ce faire, l'ADT a besoin de près de 250 bénévoles pour réaliser cet événement, comme nous l'explique Juliette Delcourt, attachée de presse de l'agence de développement touristique de la Marne.
On a besoin, pour la bonne réussite de l'événement, d'un certain nombre de bénévoles, environ 250 au total. Donc au niveau des bénévoles, en fait, on a plusieurs missions. Là où on a le plus de besoins, c'est ce que l'on appelle les signaleurs. Pour être signaleur, il faut avoir plus de 18 ans et il faut avoir un permis de conduire valide. Leur mission principale, ce sera d'assurer la sécurité des intersections, d'orienter les éventuelles voitures qui pourraient arriver à ces intersections, réceptionner les blessés, contacter les secours si besoin. Et puis on a également besoin de bénévoles, là sans restriction, pour tout ce qui va être installation et désinstallation des places festives, des barrières de sécurité, la gestion des places festives tout simplement, des parkings vélos, pour tout ce qui est logistique et sécurité en règle générale.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. Renseignements complémentaires sur le site de l'ADT Marne, tourisme-en-champagne.com. Afin que le scoutisme trouve toute sa place dans le sud-ouest marnais, l'espace missionnaire de l'Abri envisage de créer un groupe scout unitaire de France, SUF, pour les jeunes garçons et filles de 8 à 15 ans. Une réunion d'information par les chefs des scouts unitaires de France de Châlons-en-Champagne est prévue ce samedi 6 avril de 16h30 à 18h30 au presbytère de Cézanne. Une fois de plus, l'association Bougeons à Avançons se mobilise pour un concert exceptionnel proposé en lien avec l'association Hors Saison Musicale. Tout au long du week-end, les musiciens Raphaël Jouan, violoncelliste, et Bruno Maurice, accordéoniste, proposeront un duo fantastique. René Maillot, président de Bougeons à Avançons, présente ce duo hors pair.
Ils se sont rencontrés en 2017 et depuis 2017, ils ont l'habitude de se produire assez fréquemment ensemble et forment un duo tout à fait extraordinaire parce que j'ai eu la chance de les entendre. Et en fait, ils allient à la fois le classique, le musette, les musiques de l'Est, de l'improvisation. Donc on va avoir un concert tout à fait étonnant. C'est un petit peu leur volonté pour présenter des musiques différentes, pour montrer aussi que les artistes que l'on dit classiques ne se bornent pas, ne sont pas étriqués dans une seule direction musicale, et ils veulent nous faire partager aussi leur passion, parce que effectivement, quand les musiciens viennent de la part d'Hors Saison Musicale, ce sont toujours des musiciens, des interprètes qui sont très investis à la fois dans le partage, à la fois dans la communication, et on passe toujours des moments assez extraordinaires.
Et si le rendez-vous pour ce concert exceptionnel à l'entrée payée au chapeau est donné pour ce dimanche 7 avril à 15h30 en l'église d'Avançon, les initiatives de l'association Hors Saison Musicale vont plus loin avec un programme qui ne coupe pas à la tradition.
On ne coupe pas du tout la tradition puisque dès le samedi, nous interviendrons comme d'habitude à l'espace Jacques Sourdi d'Assy-Romance. Ensuite, nous ferons un goûter-concert pour les enfants du village dans la salle des fêtes. Et puis, nous interviendrons également chez une personne âgée à domicile chez elle. Et ça, ce sont toujours des moments aussi très, très exceptionnels.
René Maillot, présidente de l'association Bougeons à Avançons, au micro de RCF France-Ardennes, pour le grand public, donc rendez-vous dimanche à 15h30 en l'église d'Avançons. J-100 avant les Jeux Olympiques, ce vendredi, l'occasion de parler sport avec plusieurs rendez-vous près de chez vous, près de chez nous. La mythique course cycliste, le circuit des Ardennes, continue de battre son plein avec un dénouement prévu dimanche lors de l'étape Sedan-Sedan. Côté sport collectif en volley demain à 18h, Chaumont se déplace à Paris pour la troisième manche des quarts de finale de Ligue A. Un succès propulserait les Haut-Marnais en demi-finale. Ce samedi, il y aura du basket avec la dernière journée de phase régulière de Ligue féminine et un match couperet pour les Flammes Carolo à 18h30. Victoire obligatoire à Range-Vendée. Dans le même temps, les Ardennaises devront espérer une victoire de Tarbes à Angers pour réintégrer le top 8 et ainsi ne pas jouer les play-downs d'ici quelques jours. Samedi toujours à 20h, cette fois 28e journée de Pro B. Chalorens sera en déplacement à Orléans, et puis il y aura aussi du football. Dimanche, en Ligue 1, le Stade de Reims reçoit Nice à 15h pour le compte de la 28e journée. Désormais, place à la météo. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
C'est la dernière fois que je vous pose cette question. Quel temps en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Eh bien, vous vous rappelez, ce mercredi, quand j'avais espéré revoir le beau temps, eh bien, je crois que ce week-end, nous serons servis, voire même un peu trop, des températures anormalement chaudes pour ce début de printemps qui tombe comme un cheveu sur la soupe par rapport au temps de cette semaine. On tournera autour des 13 degrés dans la matinée avec de belles éclaircies sur tout le territoire, avec encore quelques rafales de vent à 45 km/h dans l'Aube et la Haute-Marne. Dans l'après-midi, 25 degrés au maximum avec du soleil sur toute la région. Ces températures seront plus qu'agréables, certes, mais pour un début d'avril, on devrait tourner autour des 15 degrés, donc 10 degrés au-dessus de la moyenne. Une pensée à toutes les Célestines pour ce samedi 6 avril. Passons au dimanche 7 avril avec des températures qui descendent légèrement. Au programme, 12 degrés et des nuages dans les Ardennes et la Marne. Les plus chanceux comme l'Aube et la Haute-Marne auront du soleil. Dans l'après-midi, 20 degrés et toujours un temps gris pour la Marne et les Ardennes. L'Aube et la Haute-Marne auront encore du soleil. Bonne fête en avance pour tous les baptistes pour ce dimanche 7 avril. Et tu vois Alexis, j'aurais dû attendre le dernier jour de mon stage pour pouvoir t'annoncer du soleil et de la chaleur. C'était un plaisir de vous présenter la météo pendant un mois pendant mon stage. Et j'espère que vous avez autant apprécié que moi. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion, bonne soirée, bonne continuation. C'est vrai que tu n'as pas pu annoncer du soleil dans le ciel, mais tu as apporté du soleil et de la chaleur dans les locaux de RCF France-Ardennes. Merci pour ta bonne humeur quotidienne, ton investissement, ton professionnalisme et toute ta sympathie. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et nous, on prend la direction de Nogent-sur-Seine jusqu'au 28 juillet. Le musée Camille Claudel accueille une exposition temporaire consacrée à un collectionneur et sculpteur local, Alfred Boucher, à l'origine du musée en 1902. Présentation de l'exposition, Alfred Boucher, de l'atelier au musée, avec la commissaire de l'expo, Pauline Fleury.
Pauline Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de l'exposition Alfred Boucher, de l'atelier au musée. Ça se situe donc au musée Camille Claudel, à Nogent-sur-Seine. Cette exposition est même démarrée. Qu'est-ce que l'on peut y voir dans cette exposition ?
Et oui, cette exposition montre la donation faite par Alfred Boucher, un grand sculpteur de la fin du 19e siècle, à la ville de Nogent-sur-Seine. Donc c'est une collection très riche et variée de tableaux, de sculptures, de dessins, d'objets d'art. À peu près 120 œuvres environ qui sont rassemblées là pour rendre hommage à ce sculpteur qui a été à l'origine du tout premier musée de Nogent-sur-Seine.
Il était originaire de Nogent ?
Il était né à Bouis, quelques kilomètres de Nogent-sur-Seine, et il est arrivé à 9 ans à Nogent-sur-Seine. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a découvert l'art de la sculpture, qu'il s'est formé auprès d'un autre sculpteur. Donc la ville de ses débuts.
Oui, la ville de sa jeunesse, quoi.
Tout à fait.
Donc parmi ses œuvres, il y en a qui sont connues ?
Oui, alors l'exposition rassemble à la fois donc, des sculptures de l'artiste lui-même, d'Alfred Boucher. Il y en a une qui est très connue et très impressionnante, c'est son groupe de coureurs qui s'intitule Au But. Donc là, vous avez une œuvre monumentale qui fait 2 mètres de haut sur 3 mètres de long et qui montre trois coureurs en pleine course en train de franchir la ligne d'arrivée. Vraiment, vraiment spectaculaire. C'est une de ses œuvres les plus connues et les plus modernes aussi.
Le musée, il accueille ses œuvres en exposition temporaire ?
Alors, il y a toute une partie de la donation faite par le sculpteur et donc de ces œuvres qui est en effet intégrée au parcours permanent du musée Camille Claudel, mais d'autres qui étaient en réserve, hein, puisque le musée comporte beaucoup de sculptures, toutes n'étaient pas montrées. L'exposition là permet de sortir des réserves d'autres sculptures de l'artiste, principalement des plâtres de grand format pour des commandes notamment qu'il a eu à réaliser. Par exemple, vous avez deux figures, deux sculptures qui sont des commandes pour un monument funéraire, le mausolée d'un certain Herriot. Donc nous, ce qui a été donné par l'artiste, ce sont les modèles en plâtre, mais les œuvres en marbre sont installées sur le mausolée en question. C'est un exemple parmi d'autres.
Cette exposition, donc, elle est ouverte jusqu'à quand ?
Alors, elle est ouverte jusqu'au 28 juillet, donc du 30 mars au 28 juillet. Je reprécise qu'il y a donc des œuvres d'Alfred Boucher, mais aussi de beaucoup d'autres artistes, hein, puisqu'en fait, il s'agit d'évoquer le sculpteur à travers la collection personnelle qu'il avait rassemblée. Donc, vous avez d'autres noms, tels que Camille Corot, Auguste Rodin, des artistes aussi de siècles précédents, comme Corrado Giacinto.
D'accord, oui, effectivement, c'est des artistes aussi très connus.
Oui, des noms aussi voilà. Assez prestigieux.
Oui, oui, prestigieux et qui ont un lien aussi avec nos gens.
Non, qui n'ont pas de lien avec nos gens. Le lien, c'est Alfred Boucher, c'est le collectionneur.
C'est le collectionneur, d'accord. Oui, alors donc, ouvert de quand à quand ce musée ?
Alors, le musée, il est ouvert toute l'année.
Pauline Fleury, on va inviter nos auditeurs à venir vous rendre visite du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Merci de votre accueil.
Merci mille fois à vous et oui, venez nombreux au musée.
Pauline Fleury au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. Le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine est situé au 10 rue Gustave Flaubert. Il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Renseignements complémentaires au 03 25 24 76 34 ou sur le site muséecamilleclaudel.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble ce vendredi et en alternance en fin de semaine, on retrouve l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, ou son auxiliaire, Mgr Étienne Véteux. C'est le deuxième cité qui s'entretenait avec Jean-Pierre ce matin sur RCF Reims-Ardennes.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être en direct. C'est vrai que c'est agréable de faire avec vous, dans cette octave de Pâques, de faire le point sur le Triduum Pascal, parce que vous avez été très pris pendant ce Triduum, vous avez participé à de nombreuses rencontres aux quatre coins du diocèse.
Alors, c'était un magnifique Triduum, d'abord le premier que j'ai pu vivre comme évêque et le premier dans le diocèse. Et de fait, je suis allé un peu partout, le jeudi, alors le mardi saint bien sûr, il y a eu la messe chrismale à la cathédrale, très très beau moment de rassemblement pour le diocèse. Le jeudi Saint, j'étais à Carignan, donc dans les Ardennes. Vendredi Saint à Saint-Vincent, donc espace missionnaire Reims-Est. Le samedi, deux vigiles, une dans l'après-midi à Nicolas Roland, donc l'EHPAD où il y a aussi des vieux prêtres, des religieuses. Et puis le soir à la basilique Saint-Remi, donc une liturgie magnifique dans un cadre magnifique. Et le dimanche matin, le dimanche de Pâques, à l'abbaye d'Igny.
Alors tout cela, bien sûr, en plus, on vous a beaucoup entendu dans les haltes spirituelles, on a eu des échos extrêmement positifs d'auditeurs, t'es un peu partout, dans le cadre de la retransmission depuis le monastère de Saint-Thierry avec RCF au niveau national. Une joie de Pâques que vous avez vécue également avec les catéchumènes.
Oui, je pense que ça a été un des points les plus forts de cette Pâques 2024. Ça a été les 72 catéchumènes qui ont été baptisés un peu partout dans le diocèse. Donc un passage fondamental pour eux, le signe que Dieu nous envoie des nouveaux chrétiens. Et la question maintenant, c'est comment faire pour les intégrer dans nos communautés. Ils ont vécu très fortement la préparation et de se retrouver dans la vie quotidienne de l'Église est un défi pour eux, mais aussi pour nous.
Alors il faut dire également, Monseigneur, vous avez évoqué tout à l'heure le vendredi saint, que c'est une occasion particulière pendant cette semaine sainte d'aller à la rencontre de personnes en difficulté ou des personnes plus pauvres, etc. Vous avez évoqué la prison, le vendredi saint, c'était un moment quand même important, avec l'aumônerie aussi des prisons.
De fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller confesser à la maison d'arrêt de Reims ce vendredi saint. Je pense que c'était la première fois que ça se faisait depuis très très longtemps. Et en écoutant, bon, parfois des situations extrêmement graves, on est replacé devant l'immensité de la miséricorde de Dieu. Là, Dieu pardonne sans limite. Et puis aussi, la réflexion que je me suis faite, c'est, bien sûr, les personnes qui étaient là ont commis des actes graves, mais moi, si j'avais vécu la même enfance qu'eux, si j'avais eu les mêmes circonstances qu'eux, peut-être que j'aurais aussi été là. En tout cas, l'équipe d'aumônerie est formidable. On sent qu'ils font un très très bon travail. Ils connaissent bien les prisonniers. Et j'aurai la chance d'y retourner dimanche, donc dans 2 jours, pour célébrer l'Eucharistie.
Alors, le lundi de Pâques aussi, vous avez eu plusieurs rendez-vous. Il y avait le matin le pèlerinage de Saint-Lyé à Charleville-Mézières, dans le quartier de Mont, avec une attention particulière pour les enfants malades.
Ça, en fait, j'ai l'impression que une des particularités de Pâques cette année, pour moi en tout cas, ça a été le fait de me rendre compte qu'on ne peut pas vivre la résurrection sans les plus pauvres. Et que la résurrection est presque d'abord pour les plus pauvres. Et donc Saint-Lyé, c'était très beau, d'abord très populaire. Il y avait aussi pas mal de visiteurs de la Belgique. Donc, mais
vous avez chanté Chrétien de Saint-Lyé.
Nous avons chanté. J'ai chanté Chrétien de Saint-Lyé. Et il y a ce magnifique moment où on prie pour les enfants. Et donc, vous savez, il y a eu cette liste d'enfants qui a duré au moins un quart d'heure, où on lit tous les noms des enfants pour lesquels on prie, et donc surtout les enfants malades. Donc ça fait partie de cette manière dont la résurrection peut toucher ceux qui sont en difficulté. Et le soir, vous alliez certainement m'interroger là-dessus, mais un peu dans le même thème, j'ai été servir un dîner pour la cantine à Louis. Donc la cantine à Louis, c'est une cantine qui a été ouverte pour des immigrés. Beaucoup d'entre eux vivent sous tente à Saint-Jean-de-Perse, dans le parc de Saint-Jean-de-Perse, et dans une salle pas loin de la paroisse, oui, de l'église Saint-Louis. Tous les jours de semaine, du lundi au vendredi, il y a un groupe de bénévoles qui servent des repas. C'est vraiment une grande chance de pouvoir parler avec ces réfugiés, puisque ils ont peu d'occasion d'avoir des gens avec qui parler, et puis de voir ces bénévoles à l'œuvre. Je me suis dit là aussi, la résurrection passe par des toutes petites choses.
Alors évidemment, il y a aussi les rencontres qui sont des accompagnements toute l'année. On pense à Suis-moi. C'est un rendez-vous habituel. Mardi dernier, il y avait un deuxième temps fort de cette opération.
C'est ça. Donc, Suis-moi, c'est ce parcours qui existe depuis l'année dernière dans le diocèse, où on se retrouve par petits groupes de 5 à 8 personnes. Ça permet de créer des liens et vraiment une confiance les uns dans les autres. Et on partage sur la prière à partir d'un petit livret, à partir de matériel aussi, commentaires qui sont envoyés toutes les semaines par la newsletter et des vidéos faites par des personnes du diocèse. C'est très simple, c'est humble, mais ça permet un grand, grand soutien dans la vie de prière. Et mardi, il y avait l'étape de mi-parcours à Charleville-Mézières, à Rethel et à Reims. Donc l'occasion de se rencontrer en chair et en os. C'est vraiment une fraternité qui se crée sur tout le diocèse.
Vous aviez évoqué le rapport aux plus pauvres en s'ouvrant aux autres. Eh bien, on peut évoquer aussi la diaconie, parce que vous aviez hier une journée de formation à ce sujet.
Oui, très très belle journée. En fait, on a une journée de formation qui a été proposée par le frère Frédéric Leméoté, qui est frère mineur, enseignant au Centre Sèvres, et puis Pierre-Yves Gallois, qui est un des responsables de la communauté Sapelle à Reims. Moi, ce que je retiens de cette journée de formation, c'est que pendant très longtemps, on a été au service des pauvres. L'Église s'est considérée au service des pauvres. Et là, elle se rend compte qu'il s'agit de faire un pas de plus et d'entendre la voix du pauvre. Et finalement, c'est le pape François d'ailleurs qui dit ça de temps en temps. Il nous dit « Attention, vous n'êtes pas là uniquement pour aider les pauvres. C'est les pauvres qui vous aident et vous font découvrir un visage du Christ que vous ne connaîtriez pas sans eux. »
C'est une dimension, bien sûr, à laquelle, bien sûr, nous reviendrons sur notre antenne. Si on regarde un peu l'agenda de la semaine prochaine, mais aussi un petit peu plus loin, fin avril, début mai, on a vu déjà des annonces comme quoi il y aura une marche des vocations fin avril, début mai. Vous allez, bien sûr, avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, Mgr Étienne Véteux, y participer.
Je m'y prépare, nous nous y préparons. Ça sera un beau moment, une semaine entière de marche. On va faire tout un parcours En commençant par Saint-Antoine des Hauts-Butées, on va descendre vers Charleville-Mézières et puis on va continuer par la Fontaine Olive, Sanctuaire de Notre-Dame de Neuvisy, Hermonville, Muison, puis la montagne Val d'Or, etc. Et puis finalement le samedi 4, donc là on commence le 29 avril et le samedi 4 nous arrivons à Reims où il y aura une prière dans la cathédrale. Tout un moment de convivialité avec des ateliers, et nous espérons une pièce de théâtre vers midi à Saint-Sixte. Et puis nous terminons par la messe à la cathédrale, à la basilique Saint-Remi.
Et là, c'est une rencontre avec toute la province, les 7 évêques de la province. Donc c'est quand même un moment important.
C'est une initiative de la province de dire... on fait beaucoup de choses pour essayer de toucher des jeunes et de les inviter à la vie religieuse, à considérer le fait d'être prêtre ou à réfléchir en profondeur sur la vocation du mariage. Donc la vocation, quelle est la vocation ? On en a besoin dans l'Église aujourd'hui, mais dans le fond, on se rend compte que c'est Dieu qui donne les vocations. Ça ne tient pas uniquement et pas d'abord aux forces humaines. Et donc nous voulons prier. Et les pèlerinages ont toujours été dans l'histoire de l'Église l'occasion d'implorer Dieu quand on veut recevoir et d'implorer ensemble avec d'autres. Donc vous êtes invités soit à venir à une des journées de marche, soit à participer à un ou l'autre temps de prière que vous trouverez sur le site du diocèse.
Bien sûr, nous aurons aujourd'hui une prière bien sûr particulière pour tous les prêtres.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on parle automobile pour finir. C'est vrai que le beau temps annoncé ce week-end nous donne peut-être envie de prendre la route. D'après les chiffres de la 7e édition du baromètre Alphabet France IFOP, 36% des sondés des régions Picardie, Bourgogne et Champagne-Ardenne utilisant les véhicules thermiques se disent prêts à passer à l'électrique, mais à quel prix ? Laurent Petit, chef du département marketing chez le loueur Alphabet, présente sa vision de l'avenir de l'automobile et souligne les points positifs et négatifs de l'électrique avec Christopher Fausten.
Bonjour Laurent Petit.
Bonjour.
Un tiers de nos auditeurs se disent prêts à passer à l'électrique. Cependant, eh bien, le contexte actuel n'est pas si simple. Suppression du bonus écologique pour les véhicules d'entreprise et fin du dispositif de leasing social. Laurent Petit, quel regard avez-vous concrètement sur cette situation ?
Moi, je trouve que la situation elle est particulièrement intéressante actuellement parce que vous avez décrit la fin d'un certain nombre de dispositifs qui accompagnaient les Français pour investir dans des véhicules électriques. Moi, je dirais qu'une seule chose, et pour faire très simple, on va pas revenir en arrière. Le véhicule électrique aujourd'hui permet des déplacements fluides, simples et efficaces. Et surtout, quand vous avez des enfants comme moi, ça permet à vos enfants de pas respirer les gaz d'échappement quand on est juste derrière une voiture. Donc pour moi, oui, il y a un frein qui s'est mis en œuvre avec l'arrêt de ces dispositifs. Néanmoins, on va continuer à aller de l'avant parce que c'est aujourd'hui la solution de mobilité individuelle sur les trajets moyenne distance et longue distance, qui me paraît le plus efficient pour notre environnement et pour notre santé aussi.
Oui, en effet, donc le côté pollution, on en parlera tout à l'heure, hein, des avantages et inconvénients de l'électrique, pollution en fait partie. Malgré tout, aujourd'hui, on a le prix de l'énergie qui est pour l'instant bien élevé et on se dit, l'électrique, pourquoi l'électrique tout de suite ?
Pourquoi électrique tout de suite ? Je vais vous donner, nous on a des statistiques et puis on sort un certain nombre d'études. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, le coût de l'énergie sur 3 ans, quand on fait 40 000 km sur ces 3 années,
oui,
c'est une économie de 4 000 euros.
4 000 euros.
4 000 euros parce qu'un véhicule thermique équivalent va vous coûter en énergie, donc en super sans plomb 95, ça va vous coûter un peu plus de 5 100 euros pour faire ces 40 000 km.
Il faut penser à l'entretien aussi.
Plus l'entretien. Alors, je mets à part, vraiment, si on reste sur le coût de l'énergie, oui, comme c'était votre question, donc 5100 euros pour le super samplon 95 pour 40 000 km. Si vous avez, et je le souhaite, la capacité de vous recharger au tarif tempo d'EDF, ça va vous coûter 1100 euros. Donc, c'est simple à comprendre. Oui, un véhicule électrique, c'est cher. Par contre, le coût de l'énergie, le coût de l'électricité pour parcourir le même nombre de kilomètres, c'est quand même vachement moins cher.
En fait, il faut le voir à long terme, le bilan.
Exactement. Exactement.
On le disait en introduction, Laurent Petit, 36% des sondés se disent prêts à passer à l'électrique. Quel constat faites-vous aujourd'hui sur notre territoire Champagne-Ardenne?
Aujourd'hui, c'est un constat qui est clair, c'est moins que sur d'autres régions, particulièrement dans certaines grandes agglomérations. Néanmoins, ça va dans le bon sens. Ça veut dire, pour moi, qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre dans vos régions pour passer à l'électrique, parce que l'électrique, on y reviendra tout à l'heure, n'a selon moi que des avantages. Aujourd'hui, l'utilisation du véhicule particulier, on va le résumer comme ça, se fait très largement dans vos régions, au détriment des transports en commun, puisque ça ne représente que 8%. On a une situation qui est complètement inversée dans les grandes métropoles, ce qui prouve encore une fois l'importance que les Français portent à leur déplacement individuel, et plus particulièrement, comme dirait notre président, à la bagnole. Quand vous êtes en région rurale, vous avez forcément une voiture. La plupart du temps, vous avez la chance d'être dans une maison individuelle et l'installation d'une borne ou même d'avoir une prise renforcée à côté de sa voiture, c'est assez simple à mettre en œuvre et c'est, entre guillemets, encore une fois, pas très cher. Une prise renforcée, ça va être 250-300 € à faire installer dans son garage. Et ça va vous permettre de recharger votre voiture électrique pendant toute la nuit. Et puis après, vous allez pouvoir parcourir, avec les efforts qu'ont fait les constructeurs, 300, 400, 500 km avec une recharge. Ce qui, aujourd'hui, quand on regarde les déplacements au quotidien des Français, suffit amplement à couvrir les besoins de déplacement quotidien. Donc le sujet de l'autonomie et de la recharge sur les populations rurales, finalement, est assez simple à mettre en œuvre. Là où c'est plus compliqué, par contre, c'est sur la mise en œuvre d'une infrastructure de recharge dans un immeuble d'habitation collective.
Tout à fait.
Il y a le droit à la prise qui joue en faveur des Français, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à avoir l'installation d'une prise de courant, d'une borne, dans un immeuble collectif qui dispose de parking. Et puis, si effectivement, c'est définitivement pas possible, aujourd'hui, il y a plus de 123 000 points de recharge sur le territoire français.
Qui ne cesse d'évoluer.
C'est l'AVER qui sort ce baromètre tous les mois. Et à la fin février, c'était plus de 123 000 bornes de recharge disponibles.
De nombreux auditeurs hésitent encore à se lancer. Laurent Petit, chef du département marketing chez le loueur Alphabet. On a parlé beaucoup d'avantages. Est-ce qu'on peut trouver des inconvénients?
S'il y a un inconvénient. Et le principal inconvénient pour passer à l'électromobilité, c'est l'être humain. L'être humain, par définition, il n'aime pas changer. Il aime bien ses habitudes parce que c'est facile pour lui. Donc le premier frein à passer à la voiture électrique, c'est soi-même, parce qu'on ne connaît pas forcément l'environnement dans lequel on peut évoluer avec un véhicule électrique. L'autonomie n'est plus un sujet. La recharge n'est plus un sujet. Rouler dans une voiture électrique, c'est hyper agréable. Que ça soit sur les longues distances, que ça soit dans les embouteillages, il y a une qualité, un confort au roulage qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est ça. L'inconvénient majeur, c'est vous et moi, en tant qu'êtres humains, qui pouvons être des détracteurs du véhicule électrique, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison d'être un détracteur du véhicule électrique.
Avant de nous quitter, Laurent Petit, on parle de voiture pour partir en vacances, par exemple, faire ses courses, voir de la famille, mais aussi aller sur son lieu de travail. Quel avenir, justement, pour les trajets domicile-travail avec l'électrique, pardon?
Alors, je crois qu'il ne faut pas se limiter juste aux véhicules électriques, parce que aujourd'hui, les Français, et surtout les plus jeunes d'entre nous, ont pris la pleine conscience de cette impérieuse nécessité de faire évoluer les modalités de transport. Et les modalités de transport, c'est pas juste la voiture individuelle. Alors, il y a plein de cas où la voiture individuelle va se poser comme étant vraiment le point essentiel pour pouvoir se déplacer. Et d'ailleurs, dans la région du bassin parisien Est, 92% des personnes qui vont au travail se déplacent avec un véhicule essence ou diesel. Donc l'électrique a encore de la marge
de progression.
Peut encore se faire sa place. Mmh. Néanmoins, il y a l'émergence, on le voit, de personnes, de Français, qui vont utiliser les mobilités douces et qui vont pouvoir se rendre au travail autrement. Alors, les mobilités douces, c'est le vélo, c'est les transports en commun, c'est tout ce qui peut tourner autour de ça. Et ça, plus les transports en commun vont se développer, plus on aura un impact environnemental avec nos mobilités qui sera amoindri. Néanmoins, en fonction, et la France est faite comme ça, le véhicule individuel pour se rendre au boulot, faut se le dire, ça reste quand même le moyen favori pour tous les Français. Et aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tous les avantages que j'ai déjà cités, mais si vous devez renouveler votre voiture dans les jours, mois qui viennent, il n'y a aucune raison pour ne pas passer à l'électrique.
Merci Laurent Petit, merci Christopher Fausten, merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. Très bon week-end en compagnie de RCF. We'll be right back.